Cette émission vous est présentée par Abyss Ingrédients, fabricant d'ingrédients naturels marins et durables.
Sans food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% Foot. Chaque mardi, c'est sur Nutri Radio. On se fait plaisir et on apprend grâce aux enseignants-chercheurs qui se succèdent à l'antenne de cette émission en partenariat avec Uni La Salle, la seule école d'ingénieurs en France qui propose une formation d'ingénieur en alimentation et santé. Aujourd'hui, on va parler des emballages alimentaires. La question, est-ce que c'est la fin du plastique? Ça, on peut se poser cette question parce que moi, j'ai l'impression personnellement qu'on a quand même pas mal de plastique. Toujours à tort et à travers, mais bon, l'avis de consommateur lambda, pour nous en parler mieux et dans le détail, c'est Rana Kadri, enseignante-chercheure en sciences alimentaires. Bonjour Rana.
Bonjour Fabrice et bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter des emballages alimentaires.
Bien, bah écoutez, on est, puisque vous nous annoncez ça comme ça, nous aussi on est ravis, sachez-le, on est vraiment très contents. Et on va revenir sur cette impression de, voilà, est-ce qu'on peut se débarrasser du plastique? Oui, non. Déjà, quel est le matériau idéal pour un emballage?
Rana. Alors Fabrice, je risque de vous décevoir parce qu'il n'y a pas un matériau idéal ou magique pour tous les produits, parce que chaque matériau a ses propres caractéristiques et propriétés, et chaque produit alimentaire à ses besoins et ses exigences. Donc, il ne faut pas oublier surtout que l'emballage a des rôles et des fonctions très importantes dans le produit alimentaire. Il faut donc adapter l'emballage au produit alimentaire et choisir le ou les matériaux selon les besoins. Donc, ça ne sert à rien de changer de matériau si le matériau ne va pas bien protéger le produit ou si le consommateur ne va plus acheter le produit. Donc, ça va entraîner des gaspillages alimentaires. Et ça, il faut éviter à tout prix. Donc, notre priorité, c'est le gaspillage alimentaire.
Bien, donc priorité au gaspillage alimentaire. Vous avez rappelé que l'emballage avait un rôle très important. Ils ont un rôle très important. Rappelez-nous ces rôles, justement.
Merci beaucoup, Fabrice, pour cette question, parce que je pense qu'on a de plus en plus tendance à oublier les rôles des emballages alimentaires. Alors, l'emballage, c'est un élément essentiel dans la protection, la conservation et la présentation des produits alimentaires. Il ne faut pas oublier qu'un des rôles principaux des emballages, c'est d'assurer la protection des aliments contre les dommages physiques, chimiques et microbiologiques pendant le transport, le stockage et la manipulation. Un emballage alimentaire contribue aussi à prolonger la durée de conservation des aliments en les préservant de la contamination, de l'oxydation, de la dégradation. En plus, un emballage fournit des informations cruciales aux consommateurs. Par exemple, on peut trouver les allergènes, la date de péremption, les ingrédients, la valeur nutritionnelle, les instructions de stockage et de préparation, etc. Il assure aussi un transport sécurisé en regroupant les produits d'une façon pratique. Donc, par exemple, pour les biscuits, on va regrouper les biscuits dans des barquettes en plastique. Ces barquettes constituent un support qui va nous permettre de les mettre dans des sachets et de les transporter sans les écraser. En plus, l'emballage va faciliter l'identification des produits et de leurs marques, parce que vous savez, Fabrice, la majorité des consommateurs consacrent peu de temps à choisir leur emballage dans les rayons et ils doivent pouvoir identifier très facilement leurs produits. Bien évidemment, l'emballage alimentaire est un outil marketing puissant, parce qu'il permet de promouvoir les produits en mettant en avant leurs caractéristiques, leur image de marque, les avantages concurrentiels. Et enfin, un emballage va permettre de proposer des formats adaptés à chaque consommateur. Par exemple, un consommateur qui ne mange pas beaucoup de fromage blanc, il va manger de temps en temps, il a intérêt à acheter des fromages blancs en petits pots à la place d'un grand pot dans lequel le fromage blanc va se dégrader et perdre en qualité. Donc, pour résumer, l'emballage alimentaire contribue à la durabilité en minimisant le gaspillage alimentaire grâce à une meilleure conservation des produits alimentaires, mais ça n'empêche que les entreprises doivent, dans la limite du possible, concevoir des emballages respectueux de l'environnement.
Alors on va revenir là-dessus dans un tout petit instant. Merci déjà pour ces premières explications. On marque une pause et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédients présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga 3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com.
Sans food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.
La suite de cette émission 100% food avec Uni La Salle sur Nutri Radio, et aujourd'hui c'est Rana Kadri, enseignant-chercheur en sciences alimentaires, qui est sur antenne pour nous parler justement des emballages. Est-ce la fin du plastique? Alors c'est vrai qu'on se pose la question, mais pourquoi tous ces emballages? Déjà le rôle principal, en tout cas celui que vous nous avez décrit et celui que j'ai retenu surtout, c'est lutter contre le gaspillage. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça, mais tous ces emballages permettent de bien, avec cet exemple du fromage...
Exactement, et j'insiste sur cette idée parce que le gaspillage alimentaire peut provoquer plus de pollution que l'emballage.
Voilà, donc à recadrer quand même, à réexpliquer. Merci. Et pourquoi ce domaine des emballages? Parce que même si ça, et vous l'avez dit, ça permet de lutter contre le gaspillage, pour autant la situation n'est pas forcément idéale, et donc ce domaine est en pleine évolution.
Exactement. Donc là, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et je pense, Fabrice, c'est dû à plusieurs raisons. Donc déjà, on est face à un consommateur qui est de plus en plus sensibilisé aux problématiques environnementales. Donc, il y a une demande croissante pour des emballages écologiques et durables. Donc, les entreprises essayent de répondre aux exigences des consommateurs pour des enjeux concurrentiels, mais aussi pour des enjeux économiques et éthiques. Donc, elles essaient de chercher des emballages qui réduisent les déchets et essaient d'utiliser des matériaux recyclables et de minimiser l'empreinte carbone. Et il ne faut pas oublier que les entreprises aussi doivent répondre aux exigences réglementaires, surtout avec la loi AGEC qui a été adoptée en 2020.
Alors, la loi AGEC, ça, c'est quelque chose qu'il faut nous expliquer. Parce qu'à part les pros, le consommateur en entend parler comme ça de temps en temps, mais ce n'est pas très clair encore.
Alors, la loi AGEC, A-G-E-C, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est une loi qui a été adoptée en France en 2020 et elle vise à transformer profondément notre façon de produire, de consommer et de gérer les plastiques en encourageant une transition vers une économie circulaire et respectueuse de l'environnement. Donc, la mise en œuvre de cette loi s'est déroulée progressivement depuis son adoption, avec des échéances fixées pour l'interdiction de certains produits plastiques à usage unique, tels que les gobelets, les assiettes, les couverts, les pailles. Donc, je pense que vous avez déjà entendu, il y a presque un an, que les restaurants fast-food ne pouvaient plus utiliser des couverts plastiques à usage unique. Maintenant, ils utilisent des couverts qu'on va laver, qu'on va réutiliser. Donc ça, c'est grâce à la loi AGEC. Une autre décision qui a été prise grâce à la loi AGEC, c'est l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg. Donc, il y a une liste d'exceptions de fruits et légumes, mais donc c'est une loi qui est aussi sortie grâce à la loi AGEC. Donc, cette loi vise à réduire la quantité de déchets plastiques générés et à encourager l'adoption de solutions alternatives plus durables. Donc, elle va encourager l'éco-conception des produits plastiques en incitant les fabricants à concevoir des emballages et des produits qui sont plus durables, réutilisables et recyclables. Et elle prévoit aussi la mise de mesures visant à faciliter le tri des déchets. Donc, par exemple, ils vont travailler sur un logo unique qui va être plus facile à comprendre pour le consommateur, pour le tri, ou ils vont rendre les couleurs des poubelles uniques sur tout le territoire français. Donc, cette loi vise aussi à renforcer les filières de recyclage et à encourager l'utilisation de plastiques recyclés dans la fabrication de nouveaux produits.
Très bien. Alors moi, dans ce que vous m'avez dit, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle. sur cette fameuse loi AGEC, en l'occurrence, si j'ai bien compris, l'interdiction d'utiliser du plastique pour les fruits et légumes de moins d'un kilo cinq, c'est ça?
Oui.
Ouais, je vais quand même au supermarché de temps en temps. Trois mandarines, il y a trois mandarines, deux grains de raisin, il y a du plastique.
Alors, ça dépend du produit parce que, en fait, il y a une liste de fruits et légumes c'est une liste pour liste d'exception en fait pour certains fruits et légumes. Donc, il y en a qui n'entrent pas dans cette loi pour le moment.
D'accord, fameuse exception qui fait que on a l'impression que je veux le plastique tout le temps. C'est énervant d'ailleurs quand vous avez ce plastique. Avec des mandarines, là, vous achetez le plastique, vous rentrez chez vous, vous ouvrez le plastique, et la moitié, c'est déjà pourri. Elle dit, bah, déjà, je fais un effort d'acheter bio, j'ai plus trop d'argent, mais sur les 10, il y en a 5 qui sont pourris déjà. On peut plus vérifier. Non, mais c'est pas alors, ça nous est tous arrivé, ça, d'arriver chez nous avec des trucs sous plastique, on fait confiance, on dit c'est bon, c'est protégé, et on ouvre. Alors forcément, on a la flemme de retourner au supermarché, ben voilà.
Ouais, alors, le produit risque toujours de pourrir parce qu'il a une durée de vie, même s'il est protégé par le plastique. Mais le plastique permet de prolonger la durée de vie. Donc, ça ne va pas être éternel, mais ça va prolonger la durée de vie du produit. Donc, le produit va pourrir plus vite s'il n'y a plus de plastique, s'il n'y a pas de plastique.
Eh oui, mais justement, on n'achète pas ça après. Et nous, consommateurs, on se sent plus protégés, en tout cas moins pris pour, on va dire, voilà, on se sent moins leurré quand on rentre chez soi et qu'on a dépensé de l'argent, quand on prend le plastique et qu'on découvre que ce qu'on a acheté, bah, c'est déjà pourri, en fait. C'est pourri, périmé. Bon, tout ce que je dis là, évidemment,
non, mais que, c'est mon mais expérience. Comme je vous ai dit,
peut-être qu'il y a que moi, peut-être que j'ai pas de chance. Ça vous est jamais arrivé, Rana?
Faut peut-être mieux regarder le produit avant de l'acheter.
Mais ouais, mais son plastique, c'est dur. Bon, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé avant-hier. Bon, j'avoue, je l'ai encore sur le...
Après, en agroalimentaire, on a toujours des possibilités de prolonger la durée de vie, que ce soit avec le plastique ou avec des températures qui sont basses, le frigo ou tout. Mais à un moment donné, le produit ne peut pas rester toute la vie en bon état. Donc, il va se dégrader au fur et à mesure. On peut juste prolonger la durée de vie, mais on ne peut pas le laisser toute la vie en bon état.
Ouais, évidemment, mais vous ne mourrez pas là-dessus, Anna. Vous ne mourrez pas là-dessus. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
Food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio.
Avec Rana Kadri aujourd'hui, enseignant, chercheur en sciences alimentaires, qui nous parle de ces fameux emballages et on se dirige peut-être vers la fin du plastique. En tout cas, normalement, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, devrait y contribuer, même si c'est pas encore parfait, puisque il y a des entreprises qui continuent à l'utiliser, ce plastique.
Exactement, parce que le plastique n'est pas facilement remplaçable. Donc même si le plastique, le taux de recyclage du plastique est encore faible, donc il n'est pas le plus recyclable des matériaux, ni le plus circulaire des matériaux, en tout cas dans le secteur alimentaire. Même s'il est dérivé de ressources fossiles non renouvelables, et même si on le trouve dans la nature, il a des conséquences catastrophiques sur l'environnement. Mais le plastique, si on l'utilise encore aujourd'hui, c'est pas pour s'amuser, c'est parce qu'il a des propriétés importantes dans le domaine alimentaire. Donc tout d'abord, c'est un matériau qui est léger, donc c'est facile à transporter et les coûts logistiques peuvent être réduits avec le plastique. En plus, la flexibilité de ce matériau permet la création d'une grande variété d'emballages adaptés à différents produits alimentaires. Et encore une propriété qui est très, très importante du plastique est sa capacité à assurer une bonne protection contre les chocs et les dommages physiques, tout en étant étanche à l'air et à l'humidité. Donc, cela contribue à préserver la fraîcheur des aliments. Donc, je reviens à votre exemple des mandarines. Donc, l'emballage en plastique va contrôler la respiration des fruits et des légumes. Donc, ça va permettre de prolonger la durée de vie autant que possible. Après, l'emballage plastique, pour certains produits, il est transparent. Donc, ça permet aux consommateurs de voir le produit à travers l'emballage. Et ça, c'est un point important et j'aimerais juste expliquer une chose. Ce point, il est important pour certains produits. Donc, par exemple, pour les pâtes. Avant, on avait un emballage en carton avec au milieu une partie en plastique, une fenêtre en plastique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet emballage.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc là, maintenant, on a plutôt un emballage qui est totalement en carton. Donc, on ne peut plus voir le produit. Pour ce type de produits alimentaires, je ne pense pas que ça va vraiment affecter le choix du consommateur parce que tous les consommateurs connaissent les pâtes. Donc, ça ne sert à rien parfois de voir ce produit. Donc, c'est mieux d'enlever le plastique. Mais je vais vous donner un autre exemple. Pour la salade, par exemple, il y a des sachets qui sont en plastique transparent, mais on peut aussi essayer d'évoluer et de transformer ce plastique en un emballage, en carton ou en cellulose ou n'importe quel matériau. Et le consommateur ne peut pas voir le produit à travers l'emballage. Là, par contre, cet emballage peut influencer le processus d'achat. Pourquoi ? Parce que pour ce type de produit, les consommateurs ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de voir le produit et de voir dans quel état est ce produit-là. Donc, il y a des consommateurs qui ont tendance à aller plus vers les emballages plastiques transparents pour voir le produit. Donc, c'est pour ces raisons-là. Donc, il y a plusieurs propriétés qui sont très importantes pour le plastique. Donc, je pense qu'il n'est pas facile à remplacer, du moins à court terme. Mais je pense qu'il faut réduire autant que possible son utilisation et ses impacts environnementaux qui sont néfastes.
Alors, comment les entreprises, elles, s'y prennent ? Pour réduire l'utilisation du plastique.
Alors exactement, Fabrice, il y a de plus en plus des entreprises qui s'engagent dans une démarche visant à concevoir des emballages respectueux de l'environnement. Et ça se fait de plusieurs manières. Donc la première chose, la plus facile entre guillemets, c'est la plus difficile, surtout dans le domaine agroalimentaire, c'est de supprimer complètement l'emballage. Ça peut même passer par une reformulation du produit. Donc, par exemple, il y a une entreprise cosmétique qui a transformé son shampoing liquide en un shampoing solide sans emballage. Donc ça peut se faire. Après, on peut supprimer une partie de l'emballage parce que, vous savez, les emballages alimentaires sont souvent formés de plusieurs parties. Donc, on peut, et en fait, j'insiste, chaque partie doit avoir une fonction bien définie. Et il faut donc chaque fois se demander si cette fonction est indispensable pour le produit alimentaire ou si elle peut être portée par une autre unité. Donc, par exemple, il y a des barquettes de salade maintenant qu'on trouve sans couvercle. Donc, il y a juste la barquette avec un film au-dessus. Donc, ça, on a, avec cette méthode, diminué l'utilisation du plastique. Un autre exemple, c'est les sachets de thé et de tisane. Avant, il y avait la boîte avec un film protecteur en plastique transparent. Maintenant, on trouve de moins en moins des boîtes avec ce film-là. Même, il y avait des sachets sur lesquels il y avait une agrafe. Même cette agrafe-là, on l'a supprimée. Et tout ça, c'est pour rendre l'emballage plus écologique, le produit plus écologique. Il y a une autre façon aussi de rendre l'emballage plus écologique, c'est de trouver un emballage qui est réutilisable. Donc, par cette façon, on peut conserver l'ensemble de la matrice et du matériau, ou bien trouver un emballage qui est recyclable. Donc, pour la recyclabilité, il y a plusieurs entreprises qui ont transformé leur emballage qui était multimatériaux, donc c'est-à-dire qui contenait plusieurs matériaux, en un emballage monomatériaux. Et cela, en fait, c'est pour aider, pour rendre le produit plus recyclable. Donc, plus il y a de matériaux dans un emballage, plus le recyclage est facile. La meilleure chose, c'est d'avoir un monomatériau qui est recyclable.
Très bien.
Donc, pour vous donner un exemple, là, j'ai donné l'exemple, par exemple, des pâtes. Donc là aussi, on a supprimé le plastique. Donc, on a rendu l'emballage complètement en carton. Donc, c'est plus facile à recycler. Un autre exemple, c'est les boîtes à mouchoirs. Donc, dedans, avant, il y avait une partie en plastique. Maintenant, cette partie en plastique, elle est remplacée par du papier ou du carton. Et encore une dernière solution, c'est l'allègement. Mais avant de commencer le processus d'allègement, il est essentiel de prendre en compte toutes les fonctions de l'emballage. Cela permet de déterminer la quantité appropriée d'emballage. Je m'explique. En fait, un excès d'emballage augmenterait l'impact environnemental en raison de l'utilisation excessive de matériaux, tandis qu'un emballage insuffisant aurait des conséquences plus graves car il ne remplirait plus son rôle protecteur, entraînant la perte du produit et par la suite le gaspillage alimentaire. Un exemple d'allègements qui ont été faits, c'est surtout sur les bouteilles de vin et de bière.
Très bien, merci, c'est clair. Juste un truc, vous avez dit que plus il y a de matériaux, plus c'est facile à recycler ?
Non, c'est le contraire.
Ah oui, non, parce que j'ai... Ok,
c'est moi. Ah, peut-être je me suis trompée en le lisant. En fait, je me réexplique. Plus il y a de matériaux, plus c'est difficile pour recycler. Ah, voilà, okay. Un monomatériau, c'est plus facile à recycler.
C'est bien. Je me dis aussi, est-ce que j'ai bugué ? Donc voilà, j'ai quand même bien
peut-être compris. Que c'est moi.
qu'est-ce que vous faites, vous, justement, chez Unilassal pour contribuer à tout cela et pour trouver d'autres alternatives ?
Alors nous, on offre effectivement une autre alternative au plastique. On travaille sur la formulation des emballages à base de biopolymères. Donc, c'est des produits qui sont issus de la biomasse. Donc, les plastiques biosourcés jouent un rôle de plus en plus important parce que contrairement aux plastiques traditionnels dérivés de ressources fossiles, les plastiques biosourcés sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables, comme par exemple le maïs, la canne à sucre, les pommes de terre, ou même des déchets agricoles et alimentaires. De plus, certains plastiques biosourcés sont conçus pour être biodégradables, offrant ainsi une solution de gestion des déchets organiques plus écologique. Mais cependant, la transition vers des emballages alimentaires sans plastique n'est pas sans défi, vous l'imaginez. Donc, certains biopolymères peuvent avoir des propriétés inférieures à celles des plastiques conventionnels, ce qui limite leur utilisation. Donc, à Unilassal, nous formulons des emballages alimentaires et à partir d'un ou de plusieurs biopolymères. Et nous travaillons par la suite sur l'optimisation de leurs propriétés physico-chimiques et mécaniques. Il nous reste encore une contrainte. Il faut savoir que la capacité de recyclage de ces nouveaux matériaux est encore très limitée, ce qui rend difficile leur adoption à grande échelle. En fait, la plupart des infrastructures de recyclage actuelles sont conçues pour traiter les plastiques traditionnels et ne sont pas adaptées à la gestion des biopolymères. Donc, à Unilassal, on étudie aussi la fin de vie des produits, des emballages à base de biopolymères pour voir s'ils sont biodégradables et ou méthanisables. Donc, moi, je pense que malgré les contraintes des biopolymères, je pense qu'ils représentent un avenir prometteur pour réduire l'empreinte environnementale de l'industrie des biopolymères, des industries des polymères, par contre, des polymères plastiques.
Eh bien, merci beaucoup. On va suivre ça avec attention. Ça devrait évoluer encore quoi, à court terme, là ?
Ça évolue. Il y a plusieurs centres de recherche qui travaillent sur ce domaine-là. Donc, on est plusieurs à travailler sur les biopolymères, mais il y a aussi des centres de recherche qui travaillent sur l'amélioration de la recyclabilité. D'autres travaillent sur l'amélioration du plastique lui-même pour le rendre, par exemple, monocouche. Donc, il y a plusieurs centres de recherche qui travaillent dans ce domaine-là. Et surtout avec la loi AGEC, c'est une loi qui met une petite pression sur les entreprises. Donc, on doit trouver des solutions très rapidement pour répondre à cette loi.
Eh bien, on va suivre ça avec attention. En tout cas, merci pour tous ces éclairages, toutes ces informations. Merci beaucoup, Rana Kadri, enseignant-chercheur en sciences alimentaires chez Unilassal. C'était très intéressant, très clair. Et donc, non aux mandarines sous plastique au supermarché. Merci à vous.
Merci Fabrice.
Cette émission, vous la retrouvez à partir de 18h ce dimanche en podcast sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio.
Food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio.